Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Comme nom d'artiste, il a choisi son seul prénom. Bon, il faut dire qu'à l'état civil, il s'appelle Le Sourd. Fausse piste. Hervé, depuis qu'il a renoncé au football, se saoule de son. Son premier album, Hyper, pourrait bien être la sensation de l'été. Des paroles en français balancées sur des sons électro. Bonjour Hervé.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Imaginons que ça ne se soit pas passé comme ça. Vous êtes devenu footballeur professionnel. Vous jouez dans quelle équipe actuellement ?
Je joue dans un petit club en Bretagne.
Ah
en
ouais
division 3, quoi, en National 3.
Pourquoi ? Bah, attendez, le manque d'ambition.
Ouais, non, bien, quoi.
Ah ouais, bien.
Peinard, ouais, voilà. Un petit club en Bretagne.
Ah ouais. Je croyais que vous me diriez PSG.
Ouais, ça aurait été... J'ose même pas le rêver.
Ah ouais, à ce point-là. Vous voyez, faire des passes à Neymar, quand même.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais bien aimé.
Voilà. Ouais. Et vous êtes défenseur... Enfin, vous étiez, je sais pas si vous jouez encore, défenseur central, stopper.
Oui, voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'est mort de faim. Voilà. J'ai le numéro 9 avec moi et le but, c'est qu'il touche pas un ballon, quoi. Donc, je suis un chien fou, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, donc du coup, ça correspond finalement à ce que vous êtes comme chanteur, mort de faim. Enfin, chanteur, auteur, compositeur, producteur... C'est un peu la même démarche, non ? Est-ce que l'artiste dont on va parler, Hervé, ressemble au footballeur que vous auriez pu être dans la démarche ?
Oui, bah il y a une boulimie, hein. Il y a, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout sur scène, je crois. J'ai fait là un an et demi de tournée tout seul sur scène, et j'ai une approche assez physique des choses. Donc il y a les loges, il y a le vestiaire, il y a tout ce truc. Et c'est vrai que quand je rentre sur scène, je rentre comme sur un terrain, quoi. Donc je lâche rien.
Ouais, vous lâchez rien. On va aligner les clichés.
J'ai très peur, mais
c'est vrai
je suis traqueux, mais.
Vous êtes comment avant ?
Pas bien. Pas tellement de conversation, quoi.
Faut pas vous parler.
Bah, c'est moi qui n'arrive pas tant à répondre, quoi.
Et ça prend au bide, ça prend où ?
Ouais, ça prend au bide. Je fais des tours comme ça, je m'échauffe. Voilà, j'ai ce truc juste avant de monter, quoi. Qui me manque d'ailleurs, là.
Ah bah oui, ça, on va en parler tout à l'heure, hein, le manque de la scène, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. En tout cas, vous êtes du genre à tout donner, hein, dans la vie en général. On pourrait même dire que vous êtes hyper balanceur, hyper tout. Damien Caprespine.
Des rythmes acérés, des mélodies qui percutent et une voix qui semble dompter les mots pour mieux les balancer. Votre musique, Hervé, est un coup de canif en plein cœur.
J'ai le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume.
Des chansons tranchantes et aiguisées, vectrices d'électricité et de sensualité, votre album Hyper est hyper tout. Hyper émotif, hyper sensible, hyper produit, hyper abouti, hyper sexué. Vous écoutez, c'est assumer le risque de se prendre une torgnole en pleine gueule. Un coup de boule bien balancé. Vos textes sont à fleur de derme, vos mélodies sensibles et sans frein. Vos chansons nous vrillent la tête et nous tétanisent illico. Il y a de la rage contenue, des refrains que l'on chante en chœur. Nous sommes tout à la fois amadoués, bluffés et pétrifiés. Le lien avec Bachung est évident, vous mélangez les fulgurances électro de la French Touch avec des textes courts et percutants pour mieux nous faire danser. Il y a en vous une brutalité animale, une effervescence. Votre voix mélancolique peut se révéler mitraillette lorsque vous poussez au maximum le curseur de vos émotions. Vous êtes sur scène du magma en fusion.
Me chasse par trésor.
Vous avez été bercé par le rap, la musique des Daft Punk, Air ou Phoenix, mais vous gardez profondément ancré en vous un amour pour la chanson française, celle de Léo Ferré ou de Jacques Higelin, votre premier souvenir de concert. Chien de garde ou tendre boxeur, votre chant précipité et haletant semble cautériser des plaies à vif. Et franchement, pour tout ça, eh bien tout ça c'est hyper bon, hyper cool, bref, hyper bien.
Hyper bien, bah, il a dit déjà pas mal de choses, Damien Caprespine, et des choses plutôt sympas, vous dire ce qu'il est.
Hein. Ah bah oui, bah merci beaucoup. Hein.
Hyper merci.
C'est même hyper sympa, c'est très bien accueilli.
Hyper, c'est vous. Pourquoi vous êtes hyper ?
Bah, parce que je crois que je suis né comme ça. Hein. J'ai toujours été comme ça, hyper tout. Je fais hyper bien, hyper mal, je vis tout à fond, comme ça quoi.
Fureur de vivre, hein, pour reprendre le titre d'un de vos morceaux. Cette frénésie de vie, est-ce qu'elle elle fonctionne aussi sur une peur, une frustration de ne pas en avoir assez, ça part de là ?
Je sais pas tant. Je crois que j'ai envie de tout vivre au maximum, quoi. J'ai cette peur. Je préfère être à 101% qu'à 99%, quoi.
Parce que vous en voyez des gens qui ont l'impression de passer à côté de leur vie. Ça serait terrible pour vous, non?
Moi, j'ai choisi de la vivre comme ça. Et après, je comprends aussi que bah, y a d'autres qui vivent tranquilles. D'ailleurs, j'en ai besoin. Ça m'aide pas mal. Ça me rassure pas mal. Et ça me fait du bien aussi de voir voilà, des gens en rythme de croisière, quoi. Si on était tous, je pense, avec le même curseur émotionnel, je pense que ça serait un peu chaotique. Hein,
ouais, c'est ça. Au volant d'une voiture, vous ne mettez pas le cruise control, vous.
Ah non.
On va continuer à parler de vous, Hervé, de tout, de votre album, de votre vie vieille de 28 ans,
ah oui.
De votre amour pour Bachung, de vos titres pour Johnny, c'est tout de suite après ça sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Le chanteur et sprinter Hervé est dans Culture Média ce matin. C'est vrai Hervé, vous avez produit une vidéo pendant le confinement et c'est sur l'un de vos morceaux, Maelstrom, et... Vous courez non-stop.
Ouais.
Je parle souvent du confinement ici parce que c'était quand même quelque chose d'incroyable. Enfin, peut-être qu'on revivra, mais peut-être pas de la même façon. C'était ça votre ressenti ? Vous aviez besoin d'exploser après ça ?
Oui, je ne savais pas tellement après quoi je courais, mais j'avais besoin de... En fait, je voulais faire un clip synonyme de liberté, quoi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de avec un sentiment de liberté maximum, c'est d'aller courir, en fait, comme un enfant, et d'aller... J'ai scotché mon téléphone sur la voiture de mon père, et on allait faire un tour dans le bourg, sur la côte, quoi. Puis je plaçais le téléphone à différents endroits avec le scotch. Comme ça. Et puis je suis allé courir, quoi. Mmh. Et puis un peu lâcher prise.
Ouais. Ouais. Vous qui êtes hyperactif, comme on l'a dit, qui êtes hyper, ça a dû être particulier pour vous de rester comme ça enfermé ?
Ah bah oui, c'est-à-dire que j'étais confiné à l'endroit où je m'étais confiné pour faire le disque. Donc il y avait un truc de l'ordre du jour sans fin, quoi. Et c'était bah du coup j'ai fait le clip de Si bien du mal, j'ai fait une crêpe partie dans la cuisine et une session live de Trésor. Et puis oui, il était hors de question que je reste sans sortir de titre. Je voyais le disque se décaler de jour en jour, une, deux, trois, quatre fois. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je sorte des trucs, il faut continuer d'être là, quoi.
Ouais. Bah ouais, c'est ça, il faut garder le contact. Hein.
Bah oui, c'est ça.
On va quand même écouter l'un de vos titres. Je vous donne un indice. Il y a écrit Partie de rien, je suis là.
Mm-hmm.
Quel titre ?
Addenda.
Addenda, addenda. Partie de rien, je suis. Centimes sans les sentiments. Addenda, addenda. J'ai le cœur qui bat pour toi. 100 fois par minute. 100 fois par minute. J'ai le cœur qui bat pour toi. Moi, 100 fois par minute. 100 fois par minute. Addenda, addenda. La camisole, ça m'isole, ça m'isole. J'aime plus ça, moi. Qui bat pour toi 100 fois par minute, 100 fois par minute. J'ai le cœur qui bat pour toi, moi 100 fois par minute, 100 fois par minute. J'ai le cœur qui bat pour toi 100 fois par minute, 100 fois par minute. J'ai le cœur qui bat pour toi, moi 100 fois par minute, 100 fois par minute. J'ai le cœur qui bat pour toi.
fois par minute, c'est quand même beaucoup. Hein. Adonda, Hervé, la numéro 8 sur votre album Hyper, si ça veut dire encore quelque chose, les plages.
Ah oui.
C'est vrai.
Ah, le tracklist, c'est important. Hein.
Bah oui, mais enfin maintenant, je sais pas, avec...
Toujours, hein. On raconte un peu, on se prend toujours un peu la tête, on raconte une histoire aussi, je crois, à travers le tracklist. Après,
vous
les gens piochent.
Comme
quoi.
Ça, oui, mais les gens piochent.
Ah oui, bah ça me va aussi. Hein. Ouais. Ils refont leur tracklist, quoi.
Hein. Bah oui, oui, mais sauf que vous, il y a un début et une fin quand même sur cet album.
Oui, j'ai commencé par Premier jour du reste de ma nuit, dans la logique des pas la logique du nom d'ailleurs, j'avais envie de commencer avec ça et de finir avec Bel Air. C'est le nom de la clinique dans laquelle je suis né, qui a été rasée après ma naissance, quoi. Donc je voulais finir par ça. Voilà. Donc je sais pas, j'essaye de trouver un sens là comme ça, mais c'était ça, je crois.
c'est plus la musique qui guide l'ordre de l'album, le tracklisting. C'est plus la musique ou c'est ce que vous racontez ?
Les deux. Les deux. Je voulais vraiment un titre qui s'appelle Fureur de vivre au milieu. Et c'était je savais que c'était ma, je voyais ça un peu en vinyle aussi, en face A, face B, quoi. J'avais ce truc où c'était le moment de tourner le disque, même si voilà.
C'est un truc de vieux, ça.
Ouais, ce truc de vieux, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, je m'appelle Hervé en même temps. Voilà. Faut savoir. Hein.
Alors, je reviens juste une seconde sur les hyper parce que il y a quelque chose qui me paraît. À la fois fort et intéressant, c'est hypersensible. Mmh. Ça comprend ça aussi.
Oui.
Et ça veut dire quoi ? Dans la vie, vous n'avez pas de filtre pour les émotions ? Tout vous arrive de plein fouet ?
Je suis en éponge permanente, je crois. J'ai découvert assez tard, j'ai mis assez tard un mot là-dessus, c'est-à-dire hypersensible, machin, on appelle ça aujourd'hui, je sais pas, au potentiel émotionnel, je sais pas trop, il y a plein de... En ce moment, c'est une question qu'on se pose beaucoup, quoi, mais j'ai découvert assez tard. Et en fait, oui, je prends tout très fort, quoi. Jamais toujours le curseur assez fort, que ce soit les émotions ultra positives, où je me nourris beaucoup, et des moments où je vais bloquer sur un truc qui n'a aucun sens, quoi. Je vais être là à me torturer sur un truc, là, ça va, tout va bien, quoi.
Mais c'est une chance ou c'est une souffrance ?
Bah, c'est une chance aujourd'hui, parce que je fais de la musique, du coup j'ai un terrain de jeu, quoi. Je peux produire, je peux normalement faire de la scène, écrire, donc ça, j'ai un endroit où une bulle où je peux me lâcher totalement et me ressourcer, quoi. Ouais.
Les bons retours qui vous parviennent en feedback, qui vous parviennent aux oreilles, Hervé, comment vous les recevez, vous ?
Bah, bien.
Ouais, mais qu'est-ce que ça fait ? Vous vous dites, c'est de l'ordre du soulagement, de la joie, enfin...
Bah, c'est-à-dire que quand j'ai fini le disque, je me suis dit, oh là là, j'aurais pas pu aller plus loin, quoi. J'aurais pas pu faire plus, j'étais lessivé. Et les compliments, c'est des caresses, quoi. Donc là, je prends. Et puis si demain c'est autre chose et qu'on n'aime pas, moi ça, je continuerai de faire de la musique toujours.
Quoi qu'il arrive.
Ah oui, bah oui, ouais, c'est ce que je préfère faire. Alors, je prendrai qui ait une audience, c'est super parce que du coup que les chansons voyagent dans la vie des gens, même dans la rue aujourd'hui. Parfois, je rencontre des gens qui me disent j'étais à tel concert ou à telle première partie et ça me fait bien plaisir, quoi. Mais je continuerai toujours de faire de la musique pareil, je crois.
Et manque encore des vraies scènes pour vous tout seul. Il y a une maroquinerie à Paris qui est prévue en septembre, on ne sait pas.
Non, on ne sait pas. Moi, j'avoue ne pas y penser tellement. C'est-à-dire que je me dis ni oui ni non, quoi. Je ne regarde pas, quoi. Là, j'ai reçu mes dates de tournée de l'automne. J'ai lu en travers, quoi.
On va arriver à vos influences, Hervé. Ah là là, les influences.
Hein, ah, c'est
quelque chose. Ouais. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Nous sommes avec Hervé. On va jouer pour tenter de vous cerner parce que la plupart des gens ne vous connaissent pas encore. C'est ça. Votre premier album est sorti. Il s'appelle Hyper. On va jouer à Si vous étiez. Hein, ça marche bien, ça.
Ah oui,
si vous étiez comédien.
Patrick Devers.
Parce que ?
Parce que c'est le meilleur. Parce que je l'aime beaucoup. C'est un acteur. Hyper, je crois. Ouais, hyper tout. Les coups de tête sur le capot dans Série Noire.
Ouais. Et la balle en la tempe aussi, hélas.
Et coups de tête, ouais.
Hein, je dis la balle dans la tempe, hélas.
Oui, voilà.
Si vous aviez été footballeur.
Cantona.
Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc si je vous demande tennisman, je vois qui ?
Tennisman, je ne regarde pas tant le tennis. Je veux dire. Non, vous allez dire qui ?
McEnroe.
Oui. Non ouais. J'aurais rêvé d'être Federer, quoi. Mais je ne l'aurais jamais été. Donc, oui, j'aurais cassé. Comment il s'appelle le français qui. Benoît Paire.
Voilà. Ah, Benoît Paire, oui. Ouais. Celui qui casse des raquettes, qui parfois.
Ça ne va pas, quoi.
Insulte un peu. S'insulte lui-même, d'ailleurs. Hein,
surtout lui, je
surtout
crois.
Surtout lui, ouais. Oui, absolument. Réalisateur au cinéma.
Je dirais peut-être Ken Loach ou peut-être Audiard.
Hein. Jacques Audiard, ouais. Oh, vous avez bon goût. Hein.
Bon goût, ouais.
Alors Ken Loach, vous avez un physique à jouer dans un film de Ken Loach.
Ah, oui, peut-être.
Ouais, non, c'est un physique anglais. Enfin, je veux dire, ouais, vous pourriez très bien être britannique, ça choquera pas.
Bah, c'est vrai que quand je tournais avec mon groupe en Angleterre, Postal, le groupe que j'avais avant, où on avait tous plus ou moins la même tête, quoi. Non, c'est cliché, mais oui.
Alors, au final, vous êtes chanteur, auteur, compositeur, producteur, et vous avouez une influence assez écrasante. Celle d'Alain Bachung. Comment êtes-vous tombé sur lui dans votre vie ?
Je crois qu'il est rentré dans ma vie avec gamin, avec les tubes, hein, avec Gabi, Joséphine, avec y a ce truc de voilà, au milieu des algues et des coraux, l'encéphalo-kypho, Osée Joséphine, le saxophone, comme ça, il y a un truc.
Oui, mais ça colle pas, vous les avez pas écoutés au moment où ils sont sortis, c'est
non,
bien après.
Ouais, ouais, oui, c'est après. Il ouais, y a toujours un problème de temporalité, hein, j'ai l'impression. Mm-hmm. Donc, c'est le fil conducteur de ma vie.
C'est vrai ? Pourquoi vous dites ça ?
Non, je sais pas. Bah, c'est vrai que moi, j'écoute ce qui se fait aujourd'hui beaucoup, mais. Pour moi, Gabi et tout, c'est encore des tubes qu'on entend. Enfin, voilà, moi, j'ai entendu gamin comme si c'était comme Tombé du ciel d'Igelin. Cet album, c'est l'album de toute mon enfance. Et je ne sais pas bien quand il est sorti, mais à mon avis, je n'étais pas né quand il est sorti. Oui,
il y a des chances. Mais là, c'est votre maman qui écoutait ça.
Ah oui, ouais, mon père aussi. Ouais.
Ouais,
ah
votre oui, père aussi.
Je crois que le premier concert que ma mère a vu, ça devait être Igelin au Grand Rex.
À Paris, ouais.
Moi, le premier où j'ai dû aller, c'est la fête de l'Huma avec mon père. Et enfin, il y a un truc, Igelin, quoi. C'est-à-dire que dès lors où je me suis dit, j'écris, donc je chante, donc à un moment, j'ai des chances de me retrouver sur scène. Le boss, c'était Igelin, quoi. Donc, c'est le mec de. Voilà, l'homme de scène par excellence. Chez moi, en tout cas.
Et pour revenir à Bachung, vous l'avez entendu à la radio ou quelqu'un vous l'a fait écouter ? Vous vous souvenez pas ?
Ouais, je sais pas bien. Je crois qu'on me l'a fait écouter. Et après, moi, j'ai plongé dedans à la fin de mon adolescence, en fait. Avec Internet, j'ai eu la chance de pouvoir tout écouter. Et là, je suis tombé sur un puits sans fond, quoi.
Qu'est-ce qui vous touche chez lui ?
Je crois que c'est sa fragilité. Je crois que c'est sa qualité de chef d'orchestre, de laborantin, de studio comme ça, où voilà, il faut mélanger les textes, il faut mélanger les textures, et cette liberté aussi de pouvoir faire un titre de 6 minutes et derrière de faire un tube, quoi, et de toujours remonter la pente, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Bachung, c'est vrai qu'il y a eu des moments où il a eu d'énormes tubes comme Christophe, etc. Il a eu aussi des grosses traversées du désert et il est toujours revenu, quoi. Toujours remonté, quelque chose de populaire et de pointu à la fois qui me fascine.
Ce qui est frappant, c'est que vous êtes plutôt, d'après ce que j'ai lu, Bachung période années 80.
Ouais.
On va tenter une expérience, on va écouter l'un de vos titres, enfin un extrait de l'un de vos titres, Si bien du mal, et ensuite on écoutera Gabi au Gabi pour voir.
Ok.
8 heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. Désertigueule, sensible mais sensible. 6 heures entente mineure sur mes ennuis.
Donc là c'est vous, Si bien du mal, et évidemment Bachung.
Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid.
Quand même.
Oh là là.
La même dégaine. Hein, la même dégaine.
C'est quand même un grand chanteur. Hein.
Ouais. Alors la voix, pas du tout, je vous l'accorde. Ouais. Mais quand même, dans la composition, il y a quelque chose.
Ah
non
bah, ouais, ils m'ont beaucoup inspiré, quoi. Parce que c'est pareil, ses auteurs, Jean Faulk, Bergman, Tardieu, tout ça. C'est vrai que les jeux de mots. La façon dont il joue avec les mots, que je peux retrouver aussi dans le rap français, quoi. C'est-à-dire ce truc de lyriciste un peu ultime, de il n'y a jamais de phrase facile. C'est vrai que c'est Bergman qui disait ça, qui disait oh, il faut toujours qu'il y ait un jeu de mots, quoi. Sinon, il me jette tout, quoi. Il m'envoie tout valser, quoi.
Et ouais. vous écrivez vous-même ? C'est différence. Oui. Vous écrivez tout seul.
Ah oui. J'écris, je compose et je produis le disque, quoi. Je fais les trois en même temps, en fait.
Ouais. Parfois, il y a un terrain de jeu qui paraît plus compliqué que les autres. Pour vous, c'est lequel ?
J'ai essayé en tout cas de faire des refrains. Chose pas évidente, parce que moi, je viens plutôt de la musique électronique, donc il y a cette notion de drop, c'est-à-dire de monter comme ça à un moment, un climax du morceau. Il y en a parfois un, parfois deux, parfois trois. Et là, je me suis dit, quand je voyais les copains en festival avec le public chanter les refrains. Je me suis dit, mais j'ai pas de refrain, moi. Il faudrait peut-être. Bon. Hein, ça fait partie du jeu. Je me suis dit, je vais essayer de faire des refrains. Donc là, c'était mon obsession pour l'album. Voilà. Mm-hmm.
Et puis, il y a eu cet épisode assez spectaculaire sur un CV. Je sais pas si ça a été marquant, mais enfin, écrire pour Johnny, quand même. Mm-hmm. C'était sur son album posthume. Là, vous avez écrit les paroles, il me semble.
Oui, c'est ça. J'ai co-écrit les textes. Ouais.
Trois morceaux, dont Pardonne-moi.
Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi.
Alors c'est curieux parce que généralement c'est comme un accessite, hein. C'était comme un accessite d'écrire pour Johnny. Mm-hmm. Et vous, vous avez écrit pour Johnny sans être connu alors ?
Ben non, En fait c'est une histoire assez folle, j'étais en studio chez Yodelis à l'époque de Postal. Je traînais pas mal en studio pour faire des productions, des bouts de texte, etc.
Donc l'un des musiciens de Johnny, Yodelis.
Voilà, qui était produit, donc lui qui a produit les derniers disques de Johnny, qui a produit Jane, tout ça. Et j'étais avec Johan, qui est un ami auteur aussi. J'étais en studio pour signer des papiers, ou je sais plus bien. Et c'était pour signer des papiers pour un titre. Et en fait, on voyait qu'il était très fatigué, qu'il était hyper. Que Yodelis était très.
Sur la brèche.
Ouais, voilà. Il était hyper fatigué et tout. Il nous a dit je pars mardi à Los Angeles. J'ai des musiques, mais j'ai pas de texte. Et voilà, je vous préviens, la dernière fois, il m'a tout jeté. Donc, si vous voulez essayer, essayez, quoi. Et en fait, on s'est enfermé le week-end, et sans forcément réaliser, parce que ça allait très vite, au final, qu'on écrivait pour Johnny, quoi. Et du coup, il a écouté le mercredi, il a enregistré le jeudi.
Incroyable.
C'est incroyable, ouais. Ça s'est vraiment fait comme ça.
Vous ne l'avez pas rencontré, forcément.
Jamais rencontré. Mmh. Et même au moment où l'album allait sortir, j'avais du mal à me dire, à réaliser que j'allais être dessus, quoi. Je savais même. Voilà. Mmh.
Et ça reste une fierté ?
Ah oui, évidemment, ouais. J'aimais bien. En fait, les musiques m'ont inspiré tout de suite. J'aurais pas fait pour le nom, quoi. Là, il y a les cordes un peu à la Madame Rêve, tout ça, que j'aimais bien, quoi.
Restez là, s'il vous plaît, Hervé. On va arriver aux indispensables de Culture Média. Margot Barallon adore une série. Elle vient nous en parler. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Ce matin dans Culture Média, on découvre Hervé et son premier album Hyper, et aussi on découvre une série indispensable. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Votre coup de cœur pour une série irlandaise qui s'appelle Normal People.
Et qui porte très bien son titre puisqu'il s'agit de l'histoire de gens normaux qui vivent une vie très normale et qui donc, comme tous les gens normaux à la vie normale, finissent par tomber amoureux. Alors vous allez me dire, les histoires d'amour, vous en avez vu, revu, vous pensez peut-être avoir fait le tour. Eh bien, je vous répondrai que tant que c'est réussi, rien n'empêche la récidive.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer a warm embrace to make you feel my love.
Alors nous sommes en Irlande, dans une ville de province. Marianne et Connell sont deux grands adolescents, dernière année de lycée. Et un jour, ils cèdent à leur attirance l'un pour l'autre. Alors pourtant, sur le papier, tout les sépare. La classe sociale, d'abord, la mère de Connell fait le ménage chez celle de Marianne. Et au lycée, les rapports de force sont inversés puisque lui, vous savez, c'est le sportif populaire et elle, la fille un peu bizarre et solitaire. Alors inutile d'en dire plus, pas de twist improbable, hein. Normal, je vous ai dit. La série va seulement suivre sur plusieurs années ce premier amour qui, un peu comme un élastique, les ramène toujours l'un à l'autre.
C'était différent avec toi. Je n'avais pas à jouer à un jeu... C'était authentique.
Avec Jamie,
je ne sais pas.
C'est
un peu comme si je jouais à la comédie. Je fais semblant. Par exemple, d'être sous son emprise. Avec toi, je le ressentais vraiment. J'aurais fait tout ce que tu voulais.
Margot, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Comment faire de cette histoire très commune une série réussie ?
Eh bien, l'ingrédient principal de la recette, c'est la délicatesse, celle de l'interprétation, mais aussi de l'écriture. On a deux personnages un peu clichés au départ, hein, le mec bien mais maladroit et la fille compliquée, et qui vont peu à peu se révéler dans toute leur complexité, avec leurs angoisses, leurs doutes, d'adolescents, mais pas seulement. Puisque la série aborde par exemple la question de la difficulté d'appartenir, au sens se fondre dans un groupe social dans lequel vous allez vous sentir bien. Et il y a une très jolie scène dans laquelle Connell se confie là-dessus, puisque lui, le mec si populaire au lycée, se retrouve complètement perdu lorsqu'il arrive à l'université à Dublin.
Au lycée, j'avais souvent ce sentiment d'isolement. Mais les gens avaient l'air de m'apprécier. Ici, je n'ai pas l'impression que les gens m'aiment. Je pensais qu'en arrivant à Dublin, je me sentirais mieux, que je rencontrerais plus de gens qui me ressemblent. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.
On a bien l'accent irlandais,
oui,
là.
Oui, il faut l'entendre, c'est assez particulier. Les sous-titres sont très utiles. Alors derrière, ce qu'on sent comme un déracinement permanent, il y a aussi la question de la virilité, puisque Connell n'arrive pas à rentrer dans les schémas traditionnels masculins. Donc vraiment, la force de la série, c'est d'aller au-delà du simple récit initiatique entre deux ados pour avoir vraiment un propos très universel et très adulte.
Je suis encore en train de m'interroger sur les schémas traditionnels masculins, mais bon. Une série comme un film, c'est pas seulement le fond, mais aussi la forme. Ça ressemble à quoi, Normal People ?
Eh bien, là aussi, c'est délicat. On a une mise en scène très sobre, sans effet de manche, même si vous avez des plans qui ressemblent vraiment à des tableaux, avec une belle photographie bien aidée, il faut le dire, hein, par les paysages irlandais. Et je ne peux pas vous parler de la mise en scène sans évoquer les scènes de sexe. Parce que les scènes de sexe, même dans les bons films ou les bonnes séries, c'est souvent très très raté. Et bien là, elles sont tellement simples et réalistes qu'elles en deviennent extraordinaires. Alors il ne faut pas se leurrer, hein. Il y a énormément de travail derrière. Ça tombe plutôt bien parce qu'elles sont très nombreuses, ces scènes. Ce n'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est le Sun, tabloïd anglais. Il y a 41 minutes de sexe sur les 12 épisodes de la série, soit quand même 12% du temps.
Il y en a quand même à faire quand même.
Et bien laissez-moi vous dire simplement que ce n'est pas du temps perdu.
Tant mieux. Normal People, série irlandaise qu'on peut voir où ?
Eh bien, elle vient de sortir en France sur Starzplay. C'est une petite plateforme disponible via Amazon Prime Video, 5€ par mois. Ça vaut vraiment le coup de découvrir avec cette magnifique série.
Merci beaucoup, Margot Barallon. Donc, cette série s'appelle Normal People. Hervé, vous consommez beaucoup de séries, vous ?
Un petit peu, oui. J'avoue, je m'y mets, mais voilà, pas tant en fait par rapport à mes amis. Je vois ça. Je regarde beaucoup de films en fait. J'aime bien les films.
Plus les films, ouais. Vous avez quelque chose à nous recommander ? Je sais pas, un autre artiste, un album, un livre, ce que vous voulez.
Moi, bon, j'aime toujours parler de Cantona. J'aime toujours parler de Cantona et pour filer sur sa série Dérapage, quoi. Que je trouve fantastique avec Gustave Carverne.
Sur Arte ?
Sur Arte, oui.
Et même sur Netflix maintenant.
Ah, c'est aussi, sur Netflix, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Vous la recommandez alors ?
Ah oui, je la recommande, oui, fortement. Ouais.
Et pourquoi ?
Bon, parce que je trouve super dedans et je trouve assez symbolique de l'époque dans laquelle on vit, quoi. Je trouve assez pertinent, en fait.
Vous l'avez rencontré, Eric Cantona ?
Non, jamais.
Ça arrivera un jour.
Oui, je ne sais pas si j'en ai envie, je serai en groupie, quoi.
Ouais. Qu'allez-vous faire en attendant de monter sur scène, Hervé ? Évidemment, les dates sont assez hypothétiques.
Je sais pas bien, en fait, là. Ouais. Vous voyez, j'arrive, j'ai pas la... J'ai pas de... Non, je sais pas.
Vous savez pas.
Bah non.
Vous allez tuer le temps.
Bah je vais tuer le temps, je vais sûrement faire un peu de musique, je vais sûrement aller en Bretagne. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ouais, je sais pas, parce que bah, c'est la moitié de notre vie, la Seine, là on est privé de dessert, alors... Voilà.
Ouais. Pour l'instant. Pour terminer, un flash, comme ça vient, vous, dans 10 ans.
Au bord de la mer, avec une famille, voilà, voilà, à l'ancienne, quoi, on est avec une famille et ouais, je sais pas, peut-être actionnaire d'un petit club, voilà, d'un petit club de foot et toujours à faire de la musique, quoi.
Merci beaucoup d'être venu dans Culture Média, Hervé. On va vous suivre pour l'instant. Vous qui nous écoutez, vous pouvez très bien écouter l'album Hyper. Merci.
Merci à vous.
À suivre, Première Page. Jeudi 23 décembre 1999. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moindre bruit de bête ni de qui que ce soit, pas le moindre signe de vie. Pourtant, dans ces murs, la vie avait toujours dominé. Des fabriers y avaient vécu durant 4 générations, et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses 3 sœurs, 3 lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps, elle avait été faite de rires et de jeux, entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, toutes en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après leur départ, ils n'avaient plus été que 4 sur tout le coteau, Alexandre et ses parents, et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet des prairies, Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en.
Ouais. Fin de la première page de Nature Humaine, Serge Joncourt, apparaître le 18 ou le 19 août, je ne sais plus, le 19, merci, chez Flammarion. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un bilan cinéma, un mois après la réouverture des salles, où en est la fréquentation. Nous serons également avec la journaliste Alexandra Alévèque pour l'émission Drôle de Ville pour une rencontre. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas, à demain.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.